en cette soirée du 7 juillet 98, nous allons continuer notre thème général, « Dis-leur tout ce que je t'ordonnerai ». Et comme nous vous l'avons rappelé, ce qu'il m'a ordonné, c'était de prendre l'épître de Paul à Tite et de l'étudier avec vous. Nous voulons d'abord prier. Nous sommes tellement reconnaissants, ô Dieu, de ce que tu es pour nous, de savoir que tu es notre Père, que nous avons un Père éternel qui est dans les cieux et que là où il habite, il veut nous prendre près de lui. Cet avenir est tellement merveilleux de penser que nous allons traverser le ciel, arriver jusque dans tes demeures et trouver une place qui nous a été préparée avec amour, par celui qui nous a rachetés, non avec de l'or et de l'argent, mais au prix de sa vie donnée, de son sang répandu. Nous ne pouvons que nous prosterner devant toi, ô notre Dieu, et te bénir de nous avoir donné Jésus, de ne pas l'avoir gardé pour toi-même, mais de nous l'avoir donné pour qu'il puisse accomplir cette œuvre de salut et nous rendre semblables à lui pour que nous puissions être avec lui, avec toi, dans tes aimables demeures. Ce soir, nos cœurs te louent, te bénissent et nous te demandons que vraiment ils soient ouverts pour comprendre l'immensité de ta grâce et que nous soyons bénis de ta bénédiction qui enlève tout chagrin. En Jésus. Amen. Mes amis, hier soir, nous avons cherché à vous montrer que les caractères d'anciens dont nous avons énuméré ces jours, quelques-uns dans l'épître que Paul écrit à Tite, ces caractères, ils se trouvaient déjà dans le peuple d'Israël. Et je vous ai lu le chapitre 18 de l'Exode, où nous avons vu Jéthro, le beau-père de Moïse, présentant à son gendre ce qui devait caractériser les conducteurs du peuple d'Israël, ceux à qui l'on pourrait confier une responsabilité. Puis, de ce chapitre 18 de l'Exode, nous sommes allés au chapitre 1er du Deutéronome, et en faisant la lecture, nous avons été convaincus que Moïse lui-même avait accepté le conseil de son beau-père comme étant la pensée de Dieu. Et je vous inviterai, puisque vous pouvez faire des études personnelles, à relire ces textes et à vous laisser convaincre. Et ensuite, nous sommes arrivés à l'apôtre Paul qui, parlant des anciens d'Éphèse et aux anciens d'Éphèse, au chapitre 20 des Actes, a confirmé que la charge d'ancien n'était pas établie par le vote de l'assemblée locale. C'est une question qui a été posée hier. L'établissement d'un ancien n'est pas le résultat d'un vote d'une assemblée locale, comme cela se fait si souvent, contrairement à ce que dit l'Écriture. Qu'est-ce que nous lisons dans Actes au chapitre 20, que c'est le Saint-Esprit qui les a établis anciens ou surveillants pour paître l'Église de Dieu que Jésus s'est acquise par son propre sang. Vous voyez que quand vous avez des questions et que vous cherchez les réponses dans la parole, vous les trouvez, ces réponses. Acte 20, verset 28, je relis ce texte. Prenez donc garde à vous-même, dit l'apôtre Paul aux anciens d'Éphèse, et à tout le troupeau au sein duquel, quoi? Les frères, les sœurs, le Saint-Esprit vous a établi, évêque ou ancien, pour faire paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais que parmi vous, après mon départ, s'introduiront des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau et que du milieu de vous se lèveront des hommes qui prononceront des paroles perverses pour entraîner des disciples après eux. Et c'est ainsi que se forment les sectes. Veillez donc en vous souvenant que pendant 3 ans, je n'ai cessé, nuit et jour, d'avertir avec larmes chacun de vous. Vous voyez que l'apôtre aimait chaque âme. Elle les aimait tellement qu'il en arrivait même à pleurer dans ses prières pour eux. Et pourquoi cela? Un jour, quand j'étais encore très jeune, je faisais, dans ma maladie, des chaînes de versets bibliques, et j'avais pris le sujet, j'étais à l'hôpital, des larmes depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Je ne connaissais pas encore les Bibles qui sont maintenant courantes, mais j'avais ma Bible qui n'avait aucune note, et je faisais moi-même mes chaînes, et j'avais pris les larmes, et j'avais constaté que chaque fois qu'il était question d'une prière faite avec larmes, il y avait toujours l'exaucement. Dieu exauce les prières faites avec larmes. Et vous pouvez prendre cela déjà dans la Genèse. Vous voyez une petite servante égyptienne qui est perdue dans le désert parce qu'elle a été, elle s'est sauvée de la maison d'Abraham, et le Seigneur lui demande ce qu'elle a, et il lui répond, il lui dit ce qu'elle doit faire, il répond à sa prière. Maintenant, que ce soit le patriarche Jacob, quand on veut savoir comment et par quelle force il a pu vaincre ce personnage qu'il rencontrait seul dans la nuit, juste avant que Ésaü, son frère, vienne avec 400 hommes pour le trouver, eh bien, nous apprenons, non pas dans la Genèse au chapitre 32, mais il faut aller dans le livre d'Osée, où nous apprenons au chapitre 12 comment il a été vainqueur du Seigneur. Il est dit qu'il a pleuré. Il pria et il pleura. Et c'est ainsi qu'il a été vainqueur dans cette lutte avec l'ange. Et puis, je pourrais prendre encore bien d'autres passages, mais à travers toute la Bible, nous avons ces réponses. Et Pierre, comment a-t-il trouvé le pardon de son maître quand, après l'avoir renié, il sort de la maison de Caïphe et d'Anne, et il a vu le regard du Seigneur qui a entendu ses paroles. Il l'a entendu dire, je ne connais pas cet homme. Vous pouvez vous rendre compte de ce que ça a été pour le Seigneur d'entendre Pierre qui avait dit quand même tous t'abandonneront, moi je ne t'abandonnerai pas. Et quelques heures après que le Seigneur lui lavait les pieds, lui qui avait été 3 ans avec le Seigneur, il a osé dire, je ne connais pas cet homme. Et le Seigneur a entendu cela. Bien, le pauvre Pierre, il a dû se réveiller et se dire, mais je suis perdu. Je suis perdu. C'est fini pour moi. Et qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Il aurait pu imiter qui? Judas. Judas, lui, ne s'est pas représenté. Mais il a senti que cette trahison, trahir son maître par un baiser, c'était une chose abominable. Et au lieu de se représenter devant le Seigneur et de lui demander pardon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté une corde et il s'est pendu. Et cette corde n'était pas assez forte, de sorte qu'elle s'est cassée et il est tombé et il s'est ouvert le ventre en tombant. Une mort affreuse, une mort ignoble, le champ du sang qu'on nous montre encore quand on va en Israël. Judas ne s'est pas représenté. Il a eu du remords, mais il ne s'est pas repenti. C'est là la différence entre le remords et la repentance. Tandis que Pierre, il est dit qu'il sortit et pleura amèrement. Le Seigneur ne résiste pas aux larmes. Et c'est tellement vrai que là où il y a une exception, que vous trouvez dans l'Épître aux Hébreux, eh bien, nous voyons que cette exception confirme cette affirmation que je faisais tout à l'heure, que les prières faites avec larmes sont généralement exaucées. C'est au sujet d'Ésaü, hein, quelqu'un l'a dit, hein, au sujet d'Ésaü, c'est au chapitre 12, si je ne m'abuse, de l'Épître aux Hébreux. Chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons et ne cause du trouble et que plusieurs en soient infectés. Veillez à ce que personne ne soit débauché ni profanateur comme Ésaü, qui pour un seul plat vendit son droit d'aînesse. Qu'est-ce qui avait institué le droit d'aînesse dans les familles en Israël? C'était Dieu. Alors, vendre son droit d'aînesse pour un plat de lentilles, c'était mépriser une ordonnance de Dieu. Et puis, il a regretté d'avoir fait ça, mais il ne s'est pas repenti. Il a vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Et verset 17, vous savez que plus tard, parce qu'il faut toujours penser à plus tard quand vous agissez, vous savez que plus tard, quand il voulut hériter de la bénédiction, parce que la bénédiction, elle venait du droit d'aînesse, il fut rejeté car il ne trouva pas moyen d'amener son père à changer d'avis, ou il ne trouva pas lieu à la repentance, bien qu'il l'eût recherché avec larmes. Ça affirme que habituellement, quand on recherche avec larmes le pardon du Seigneur, on le reçoit. Mais évidemment, il ne faut pas frotter des oignons sur ses yeux pour avoir des larmes. C'est des larmes qui doivent sortir du fond du cœur. Une tristesse, comme dit l'apôtre Paul, une tristesse selon Dieu dont on n'a pas de regret et qui nous apporte la paix dans l'assurance du pardon du Seigneur. Alors, revenons à ce livre des Actes dont nous avons souligné quelque chose hier soir et même ce soir, nous lisons au verset 32e, « Maintenant, disait Paul, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce. » Oh, si vous saviez, c'est ce que je fais à chaque instant, durant les nuits et les jours que nous passons ensemble. Je vous regarde, je vous vois, je vais voir comment vous jouez. Je me suis réjoui de voir toute l'énergie que vous mettiez dans vos jeux. Et je me suis dit, évidemment, je ne peux plus faire ça. Du reste, je crois que je ne l'ai jamais fait. Mais je suis très heureux de vous voir vous dépenser ainsi. Eh bien, même en vous voyant, il y en a qui tombaient assez rudement et qui pouvaient être marqués par leur chute. Mais enfin, ce n'est pas des chutes morales. Alors nous en bénissons le Seigneur. Si vous vous faites des bleus en tombant parce que vous avez couru, eh bien, c'est bien regrettable pour vous. Je vous souhaite pas d'avoir mal. Mais enfin, c'est pas moral. Et ça se guérit. Maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a la puissance d'édifier et de donner l'héritage parmi tous ceux qui sont sanctifiés. Et il ajoute comment lui a vécu. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Quand on est au service du Seigneur, on est libéré de ces choses. Pourtant, on en a besoin, mais le Seigneur le sait aussi. Alors, s'il nous a appelés, eh bien, j'aime à souligner que ce qu'il ordonne, il le donne. Et vous savez, on ne sait pas comment. J'ai toujours été émerveillé de voir la manière dont Dieu répond pour pourvoir à nos besoins. Et cela, ça multiplie nos actions de grâce. De sorte que, au fond, le Seigneur sait tellement de quoi nous avons besoin, eh bien, il est dit, avant qu'il crie, je répondrai, pendant qu'il parle, j'exaucerai. Et je vois mon petit-fils Jean-Bernard ici, je me souviens toujours, parce qu'il a un père, hein, qui s'appelle, qu'est-ce que j'ai dit, Jean-Bernard? Non, je me trompe. Jean-Samuel, ici, hein, qui est ici. Mais son père s'appelle Jean-Bernard. Et vous avez vu, de l'autre côté, il y a 13 petites conférences. Et le Seigneur m'avait demandé, j'avais entendu dans mon cœur que je devais faire, quand j'habitais Nice, des conférences dans une salle neutre, une salle de théâtre, près de la promenade des Anglais, où tout le monde, tous les touristes viennent, et que chaque mardi soir, je ferai une conférence. Et puis, pendant plusieurs semaines, tous les mardis soirs. Et puis, j'avais compris que je devrais en faire un résumé de chaque conférence. Et que le mardi suivant, j'irai plus loin, je ferai une seconde conférence, une troisième et une quatrième, et j'en ai fait 13, dans le sens que je voulais apporter tout le message de Dieu. Apporter non seulement la repentance, la foi, mais tout le conseil de Dieu. Et c'est pourquoi ça finissait par Israël et sa destinée. Les quatre dernières, c'était l'homme et sa destinée, le monde et sa destinée, l'Église est sa destinée et Israël est sa destinée. Mais au lieu de faire un gros livre, ce sont des petites conférences, des petits pamphlets qui ont une vingtaine de pages, ce qui se lit plus facilement. Mais il fallait l'argent, évidemment, pour cela. Et je me souviens que à table, au refuge que je dirigeais à ce moment-là, notre maison, Jean-Bernard était là, et donc le père de Jean-Sam, et j'ai dit que je voulais faire ces conférences, mais qu'il me fallait 25 000 francs français par semaine là pour cela, puis on avait dû louer aussi la salle, et nous avons prié. Je disais toujours à mes enfants ce que nous faisions. Et puis dans ma prière, tout d'un coup, j'ai demandé au Seigneur que je puisse payer le lendemain l'imprimeur, parce qu'un chrétien ne doit pas avoir des dettes. Alors, je me suis mis à prier à table, ils étaient tous là, mes enfants. Puis tout d'un coup, j'ai dit, « Et maintenant, je te remercie de ce que tu m'as exaucé. » Oh, Jean-Bernard, quand j'ai eu fini, il me dit, « Mais papa, tu n'as pas d'argent. » Non, mais c'est vrai, ça. Tu l'as pas, pourquoi est-ce que tu dis merci? Tu l'as pas reçu. Mais j'ai dit, « Mais je sais que je recevrai, pourquoi ?» Et parce que le Seigneur m'a demandé de faire cela, ce travail. Il ne peut pas ne pas être là. Alors, il a poussé un grand soupir. Et le lendemain, au courrier de quelqu'un que je ne connaissais pas, mais qui venait du tout un autre coin de France, à l'opposé de la France, qui écrivait ceci. Je ne sais pas pourquoi, mais Dieu m'a mis à cœur votre ministère. Et je vous envoie ce chèque de 25 000 dollars. Qu'est-ce que j'ai dit?
Ancien
franc. Oui. C'était, et ça coûtait 24 000. Donc le Seigneur mettait encore un petit quelque chose. Eh bien, c'est comme ça que ces conférences ont pu se faire. De sorte que tous les livres qui ont été imprimés et qui sont des messages, ils ont toujours été payés. Eh bien, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur, et je voudrais que vous connaissiez ce Seigneur. Parce que nous allons au-devant de temps difficiles. Mais faites-le entrer. Il s'intéresse à vous, à vos besoins. Et si vous avez un cœur ouvert pour les besoins des autres, il y pourvoira. Alors, évidemment, on avait pris une jeune femme qui avait deux petits enfants. Il y avait eu un père, mais enfin, elle avait eu ses deux enfants. Et nous l'avions chez nous. Elle était incrédule, elle aussi. Alors, elle était d'accord avec Jean-Bernard que je m'étais trompé. Et quand elle a vu la lettre, c'est elle-même qui me l'a apportée depuis la boîte aux lettres, dans mon bureau, elle a vu la lettre, et bien ça l'a touchée. Les prières que nous faisons au Seigneur pour des choses qui sont, selon lui, il les exauce. Ce n'était pas pour moi que je demandais cela, mais c'était pour être en règle. Eh bien, voyez-vous, le Seigneur répond à nos prières. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ses mains ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. Si je dois consacrer tout mon temps à l'évangile et à l'évangélisation, le Seigneur sait que je ne peux pas travailler de mes mains. Mais si je ne le faisais pas, ben je travaillerais de mes mains et j'aurais mon salaire, comprenez-vous. Dieu est un bon maître, et si c'est lui qui est mon patron, eh bien, il me donne ce qui est nécessaire. Je crois vous avoir raconté qu'un jour à Lesins, justement en Suisse, quand j'avais reçu cet appel, n'est-ce pas, fonde un foyer pour tuberculeux à Lesins, c'était midi, en plein hiver, le 28 janvier 1938. Et puis, une demi-heure après, je dînais chez cet homme qui m'avait invité et qui me demande pourquoi, qu'est-ce que vous avez, votre visage rayonne. Je lui ai dit, je l'ai rencontré. Puis il me répond, qu'est-ce qu'il vous a dit? Je lui ai dit, eh bien, il m'a dit, fonde un foyer pour tuberculosés. Et là, je vois cet homme, je vous l'ai dit, il éclate en larmes, puis il me prend dans ses bras et me dit, c'est 20 années d'exaucement de prière. Vous voyez, il avait prié pour ça, moi je ne savais pas. Et puis il dit, je prends à ma charge ce foyer. Puis alors là, quelques mois après, j'étais là-haut, marié, avec deux petites filles, et le Seigneur y pourvoyait. Mais quatre mois après notre venue là-haut, les 4 mois qu'il avait payé, on passe une soirée avec eux, avec lui et sa femme, et puis on chante des cantiques, et je me souviens, le dernier cantique, il jouait du violon, comme notre frère, et on avait chanté le psaume 31, qui dit que nos temps sont en ta main, n'est-ce pas? Ô Dieu, nos temps sont en ta main, c'est un destin digne d'envie et sans souci du lendemain. C'est le dernier cantique qu'on a chanté. À 10 heures, nous sommes repartis avec mes deux enfants et ma femme de ce moment-là. Et qu'est-ce qu'il y a eu? À 5 heures du matin, le téléphone sonne, Gaston venait vite, Paul est mort. Voilà. Paul était mort, celui qui avait fait cette promesse. Mais il n'avait rien écrit. Et alors, dans les héritages, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je voulais tout de suite soulager sa femme. Alors j'ai dit, mais Paul est mort, mais le Seigneur de Paul n'est pas mort. N'est-ce pas? Moïse, mon serviteur, est mort, mais le Dieu de Moïse n'était pas mort et disait à Josué, ce que j'ai été pour Moïse, je le serai pour toi. Mes amis, c'est cela la vie chrétienne. Il y a des visitations de Dieu, mais il faut être en relation avec lui. Il faut avoir une communication avec lui. La doctrine vraie, elle est accompagnée de la piété, c'est-à-dire d'une relation avec lui. Faire toute chose de cœur, comme pour le Seigneur. Et alors, c'était quand même assez dramatique. Je me suis dit, mais comment est-ce que je vais continuer? Mais je m'enferme dans ma chambre et j'expose ses besoins au Seigneur. J'ai libéré tout de suite la veuve de cette obligation pour qu'elle n'ait pas d'ennui. Mais le Seigneur, il y a toujours pourvu. Il y a toujours pourvu et il n'a jamais été, on n'a jamais manqué de rien. Et on a été 7 ans là-haut à Lézin. Alors que beaucoup de chrétiens m'avaient jugé, condamné, en disant que j'étais un criminel d'amener 2 petites filles qui avaient 6 et 4 ans, de les amener dans un lieu où il y avait 3000 tuberculeux. Et nous allions recevoir tous ces tuberculeux dans notre salon. Nous étions des fois 70. Les malades qui venaient, fallait mettre leur manteau. Et alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Vous croyez qu'elles sont malades et qu'elles sont tuberculeuses, ces deux filles? Au bout de 7 ans, quand j'ai dû quitter Lézin, parce que Lézin n'était plus une ville pour les malades, ça devenait une ville touristique à cause de la guerre qui avait eu des recherches au sujet de la tuberculose. On soignait la tuberculose autrement, eh bien, mes deux filles n'avaient pas même fait une primo-infection. Rien. Le Seigneur est avec nous et il nous montre qu'il est un Dieu vivant. Et quand vous lisez l'Écriture, il est parlé d'Abraham. Hein? Est-ce que votre Dieu, c'est le Dieu d'Abraham? On a eu un temps ici avec Josaphat et Françoise, un temps de travail. Et nous avons pris le thème « Regardez à Abraham ». Bien oui, regardez à Abraham. Et c'est cela que je vous disais hier soir. Regardez à ces hommes de la Bible, ce que Dieu a été pour eux. Et ne pensez pas, oui, mais ça c'était autrefois, mais maintenant ça ne peut plus être la même chose. Je voudrais que le Saint-Esprit vous convainque que la pure doctrine chrétienne n'est manifestée que par la vie des individus plus que par leur parole. Et vous pouvez prendre maintenant la vie des hommes de Dieu dans l'Ancien Testament et regarder ce qu'a été leur vie. Leur vie recommande leur parole. Ils ont été exaucés. Ils ont eu leurs manquements, ils avaient leurs défauts, mais Dieu les a conduits. Et hier, je crois, j'ai déjà souligné que vous pouviez prendre comme exemple la vie d'Abraham pour illustrer ce qu'était un vieillard, puisque dans l'épître de Tite, vous avez lu au chapitre 2 qu'il y a des enseignements concernant les vieillards d'abord. Ce qui doit caractériser un vieillard. Et je vous ai dit, prenez l'exemple d'Abraham. Et j'ai souligné quelque chose que j'avais certainement déjà dit autrefois ici, que dans la vie d'Abraham, on trouvait quatre choses. Mais quelqu'un m'a posé la question et j'étais un peu brouillé après la réunion et je n'ai peut-être pas répondu d'une façon très claire. Je vous le dis. Les quatre choses que nous voyons dans la vie d'Abraham, c'est que ce qui le caractérisait, les traces de sa foi, c'est que quand Dieu lui a parlé, qu'est-ce qu'il a écouté ? Sa famille ou Dieu ? Dieu d'abord. Hein. Dieu lui parle dans ce pays de Saddam Hussein d'aujourd'hui et il lui dit sors de ce pays et de ta parenté. Et qu'est-ce qu'il a fait? Abraham crut Dieu et il lui obéit. Alors, ce que je disais, c'est que toujours dans nos rapports avec Dieu, Dieu d'abord, le premier. Maintenant, dans nos rapports avec le prochain, je résumais cela par « Toi d'abord ». Quand il était avec Lot, son neveu, au chapitre 13 de la Genèse, et qu'ils ont dû se séparer, qui est-ce qui devait choisir le lieu où il voulait habiter? C'était l'ancien, semble-t-il. Mais non, il laisse son neveu. Et il lui dit, viens choisir où tu veux aller. C'est toi d'abord dans nos relations avec le prochain. Dites-vous que le Seigneur veille sur vos intérêts. Et puis, dans nos relations avec le monde, je l'ai souligné hier soir, quand le roi de Sodome a voulu lui donner ses biens, il a dit, rien pour moi. Et puis, quand finalement, il a eu la grande épreuve de sa vie, que Dieu l'a appelé Abraham, Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, et va l'offrir en sacrifice sur la montagne. Il l'a fait, tout pour Dieu, en faisant confiance. Donc, les traces de notre père Abraham, que nous devons suivre, peuvent se résumer en ces quelques mots, Dieu d'abord, toi d'abord, rien pour moi, tout pour Dieu. Vous avez cela dans Romains au chapitre 4. Et vous voyez alors la vieillesse d'Abraham. Il est mort à 175 ans. Vous avez cela au chapitre 25 de la Genèse, verset 8. dans une heureuse vieillesse. Alors vous pourriez aussi prendre d'autres hommes pour illustrer ce qui est dit à ces vieillards, les hommes âgés de la Bible. Vous pouvez prendre la vieillesse d'Isaac, qui n'est pas si belle que la vieillesse d'Abraham, mais si vous allez dans les évangiles, est-ce que vous connaissez un vieillard qui pourrait vous édifier? Siméon, n'est-ce pas? Chapitre 2 de Luc, quand Marie et Joseph s'en vont au temple pour présenter Jésus, il y a un vieillard qui a été averti. Vous voyez que Dieu ne parle pas seulement à des jeunes, mais il parle aussi aux personnes âgées. Il lui dit de se rendre au temple et il arrive là quand on présente l'enfant Jésus. Il le prend dans ses bras. J'aime tellement ce passage. Il a le petit enfant dans ses bras. Il le regarde, lui qui est âgé, puis dit « Mes yeux ont vu ton salut. » Mes yeux ont vu ton salut. Une lumière pour qui? Pour les nations. Et puis, la gloire d'Israël. Et quand Israël reconnaîtra que Jésus est leur sujet de gloire, toutes les questions dont vous entendez parler seront résolues. Mais il faut qu'Israël reconnaisse dans le Seigneur qu'ils ont rejeté et crucifié, livrant Jésus à Pilate. Il faut qu'ils reconnaissent leur erreur. Et quand ils reconnaîtront que Jésus est leur sujet de gloire, eh bien, tout va changer pour eux. Maintenant, nous avons parlé des personnes âgées, des vieillards. Puis après, il est parlé des femmes âgées. Est-ce que vous connaissez des femmes âgées dans la Bible et qui pourraient vous édifier et vous aider à comprendre ce qui est dit de ces femmes âgées que nous voyons dans l'épître de Tite, que les femmes âgées, qu'est-ce qu'il est dit d'elles? Eh bien, nous le reprenons. Dit, verset 3 du chapitre 2, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, d'être ni médisante, ni asservie aux excès du vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions afin d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être sensées, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises, chacune à son propre mari, afin que la parole ne soit pas calomniée. Donc c'est toujours la vie de quelqu'un qui recommande la doctrine, qui recommande la parole. Alors, est-ce que vous connaissez dans la Bible des femmes qui pourraient illustrer ce passage? Il y a Sarah, oui, que vous pouvez prendre comme exemple en lisant 1 Pierre 3. Vous pouvez lire dans l'épître de Pierre quelque chose qui est dit au sujet de Sarah, comme elle était soumise à son mari. Chapitre 3 de la première épître de Pierre. Vous de même, femmes, soyez soumises chacune à son mari, afin que même si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre conduite pure et respectueuse. N'ayez pas pour parure ce qui est extérieur, cheveux tressés, ornements d'or, manteau éclatant, élégant, mais la parure cachée du cœur, la parure personnelle, inaltérable, d'un esprit doux est tranquille. Voilà ce qui est d'un grand prix devant Dieu. Mes chers amis, est-ce que nous faisons des choses qui ont du prix devant Dieu? Voilà ce qui est un grand prix devant Dieu. Et vous savez, si ça a un grand prix devant Dieu, vous pouvez être sûr qu'il y a la bénédiction. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes, vous pourriez les trouver ces saintes femmes, qui espéraient en Dieu. Elles étaient soumises à leur mari, telles, notre sœur l'a dit, Sarah, qui obéissait à Abraham, elle appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les descendants, comme on peut devenir aussi les descendants d'Abraham, on est descendants de Sarah, si vous faites le bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Vous de même, Marie, vivez chacun avec votre femme en reconnaissant que les femmes sont des êtres plus faibles. Honorez-les comme cohéritières de la grâce de la vie, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Et je voudrais que vous me citiez une autre femme qu'on peut prendre comme exemple de quelqu'un qui influençait sa belle-fille pour qu'elle aime son mari. Naomi, voilà, et vous vous souvenez qu'on a étudié le livre de Ruth ici? Eh bien, Naomi, pour sa fille veuve, elle l'enseignait et lui a appris à avoir du respect et de l'amour pour qui? Pour Boaz, qui allait devenir son mari. Alors, vous voyez, la parole s'explique par la parole. Ce que vous trouvez dans Tite va être illustré par ces vies que nous pourrions multiplier. Et je vous citerai encore, avec Siméon, est-ce qu'il n'y avait pas encore une femme âgée de 84 ans? Anne, n'est-ce pas? Qui, elle, était veuve après 7 ans de mariage. Et au lieu de se désoler, eh bien, elle vivait dans la louange pour le Seigneur. Une veuve qui était vraiment heureuse envers et contre tout. Et nous allons terminer par la lecture qui convient au sujet de ce que peut être une femme. Et qu'est-ce que je vais lire? Le Proverbe 31. Et voilà qu'on a la même communion. Nous lisons dans Proverbe 31. La femme de valeur. Et comme ça, ce n'est pas l'enseignement de Racine que vous recevez, mais l'enseignement de la parole. Qui trouvera une femme de valeur ou une femme vertueuse? Verset 10 du chapitre 31 des Proverbes. Le cœur de son mari a confiance en elle et le bénéfice ne manquera pas. Elle lui fait du bien et non du mal quelques jours de sa vie. Tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin. Elle travaille d'une main paresseuse. C'est ça votre traduction? Elle travaille d'une main joyeuse. Elle ne se plaint pas toujours du travail qu'elle a. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il fait encore nuit. Elle donne la nourriture à sa maison et ses instructions à ses servantes. Elle réfléchit à un champ. Elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne, donc elle a toutes sortes d'idées et elle agit. Elle met à ses reins la force comme ceinture, elle a fermé ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon, sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle ouvre ses mains pour le malheureux, elle tend la main aux pauvres. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisi. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de peau. Son mari est considéré aux portes. Lorsqu'il siège avec les anciens du pays, elle fait des chemises et les vend. Elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de dignité. Elle se rit de la vie. Elle n'est pas toujours en souci. Hein. Elle ouvre la bouche avec sagesse et un enseignement bienveillant est sur sa langue. Car nous avons vu dans Tite que les femmes âgées, elles étaient exhortées à veiller sur leur langue. Parce que quand on devient vieux, on risque d'être médisant quand on est une femme. Et les femmes qui se rassemblent, bien souvent, elles médisent. Elles parlent des autres. Et c'est pour ça qu'il y a eu des réunions de femmes mais qui ont foiré complètement. Même dans les églises. Parce qu'elles bavardaient entre elles, et puis, bon, eh bien, elle ouvre sa bouche avec sagesse, et un enseignement bienveillant est sur sa langue. Elle surveille la marche de sa maison, elle est aussi surveillante, vous voyez. Tes fils se lèvent, elle a dit, bienheureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Beaucoup de filles ont une conduite de valeur, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté vaine. La femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée. Donnez-lui du fruit de son travail et qu'on porte ses œuvres la loue. Eh bien, voilà quelques textes qui vont illuminer encore ce chapitre 2 de l'épître de Paul à Tite au sujet de la femme et du ministère d'enseignement qu'elle peut avoir. Dieu notre Père, l'heure est venue de fermer nos Bibles, mais nos cœurs ne sont pas fermés. Ils ont reçu ta parole. Et nous voulons te demander que ton Saint-Esprit, qui devient notre mémoire, nous rappelle ces choses et que nous ayons la vision de ces choses. Nous n'avons pas ce soir la vision de ce que nous pouvons regarder à la télévision, mais nous avons lu la parole et nous avons là aussi une image qui doit nous rester. Et nous voulons te demander que cette vision de la femme vertueuse nous habite et que tu gardes ces jeunes de se tromper un jour. S'ils doivent se marier, nous savons que tu veux les préparer. Et nous te demandons que, dans ta bonté, nous soyons toujours remplis de ces vérités de ta parole, afin que nous puissions témoigner encore que nous sommes en relation avec le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, qui répondait à leurs prières malgré leurs manquements. Sois béni de ce que tu veux continuer de nous enseigner dans ce camp, en Jésus-Christ. Pour sa seule gloire. Amen. Amen.